Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir les curieux, vous vous portez bien? J'entends les réponses, ça a l'air d'être pas mal. Mais en tout cas, si vous n'allez pas bien, vous allez voir à la fin de l'émission, vous serez comme neuf. Vous allez bien Thomas?
Ah, j'ai eu peur que vous alliez... que vous oubliez de me poser la question.
Bah oui, ça fait quand même quelques heures qu'on est au bureau et qu'on se voit.
Non, mais ça sent la fin de troisième saison, les derniers tiers de troisième saison.
Vous savez que l'amour ne dure que 3 ans, peut-être que l'amour radiophonique, c'est pareil.
Bon, en tout cas, on a un joli programme pour vous. Tiens, un tabou de la 5ème République. Joli, j'aurais peut-être pas dû employer ce terme, mais en tout cas l'histoire est fascinante. L'histoire de ces femmes allemandes, pour la plupart raflées par la police française en mai 1940, soupçonnées d'intelligence avec l'ennemi alors qu'elles avaient majoritairement fui l'Allemagne nazie. Elles ont vécu l'enfer au Veldiv, puis dans le camp de Gurs. On vous racontera leur histoire.
Et puis quand un académicien s'attaque au destin des moustiques, ça donne un voyage savoureux raconté par Eric Orsena. On va faire le tour du monde avec lui tout à l'heure et découvrir nos pires ennemis. Oui, ils sont bien plus dangereux pour l'homme que les requins ou les hippopotames.
Ils sont tout petits, mais tout de suite à 24 heures du grand débat présidentiel, on va revivre les duels les plus marquants de la 5ème République avec Alain Duhamel, forcément.
RTL.
Le président de la République sera dorénavant élu au suffrage universel.
La curiosité est un vilain défaut.
Nous avons créé entre nous un dialogue.
Oui, ce dialogue qui commence aujourd'hui entre nous. Je l'espérais depuis longtemps.
Jusqu'à 22h.
J'ai dit que pendant cette campagne, je voulais regarder la France au fond des yeux.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir Alain Duhamel.
Bonsoir.
À la veille du débat d'entre-deux-tours des élections présidentielles, on a voulu en profiter pour revivre les grands débats de la 5ème République. Alain Duhamel, on est maintenant habitué à ces débats politiques télévisés. Qui les a en quelque sorte inventés? C'est le général de Gaulle?
Le général de Gaulle a inventé la première interview politique dans une campagne présidentielle. Il avait refusé de faire campagne, il avait refusé de mener campagne, il s'était d'ailleurs déclaré au dernier moment, un mois avant.
En 1965.
Voilà, et c'était donc la première élection au suffrage universel direct. Et puis quand il a été en ballotage, là pour le coup, il a bien fallu qu'il participe réellement à la campagne, qu'il se fasse interroger. Il s'est fait interroger, c'est devenu célèbre, par Michel Droit, qui était, disons, un compagnon très proche et qui ne cherchait qu'à le mettre en valeur. Mais il n'empêche que c'était une première.
Mais il n'y a pas eu de débat entre
non,
les deux tours de la présidentielle de
65. Il n'y a pas eu de débat Général de Gaulle, François Mitterrand.
Oui.
Mais je pense qu'à l'époque, ça n'était même pas imaginable.
Parce que c'était...
Parce que la France de 1965, c'était une république autoritaire, que le général de Gaulle avait des comportements de militaire cultivé, mais de militaire quand même, de général. Il avait des comportements de général aussi. Mmh. Et que l'idée de débattre à égalité avec un candidat quel qu'il soit...
Ça n'avait de faiblesse.
C'était le contraire. Non, c'est non. La conscience ou l'illusion, ça on peut en débattre, qu'il avait d'être le monarque légitime de la France depuis qu'il était né.
Alain Duhamel, vous avez arbitré deux débats d'entre-deux-tours de l'élection présidentielle en 1974 et en 1995. Le premier opposait évidemment Valéry Giscard d'Estaing à François Mitterrand. On se souvient tous de cette petite phrase signée VGE.
Eh bien, Monsieur Mitterrand, si on vous a écouté comme je vous ai écouté avec intérêt, on est convaincu que ce qu'il faut faire, ce n'est pas ce que vous proposez. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, Monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas aux Français de cette façon si blessante pour les autres.
Alain Duhamel, c'est toujours la petite phrase que l'on ressort de ce débat.
À juste titre.
Quand vous l'entendez, vous vous dites, c'est la phrase qui marquera en direct,
ça,
forcément.
Bah oui, ça, ouais. Et pour le coup, j'ai regretté sur l'instant de ne pas avoir le droit d'intervenir d'aucune façon, parce que on sentait que quelque chose basculait à ce moment-là.
Vous auriez eu envie de dire quoi?
J'aurais eu envie de relancer Giscard lui-même en disant « Mais est-ce qu'avec votre politique, etc., vous pensez que vous avez toujours du cœur ?» Enfin, quelque chose de ce genre.
Ouais. Mais comment réagit Mitterrand, d'ailleurs?
Alors, Mitterrand a accusé le coup. Et d'ailleurs, par la suite, il a reconnu qu'il avait eu le sentiment d'avoir perdu ce duel à ce moment-là. Ce qui était très important parce que c'est le seul duel présidentiel dont on puisse dire qu'il a peut-être joué un rôle décisif sur le résultat final. Parce que le score a été tellement étroit que le fait d'une initiative complètement neuve, qui était le duel, avec une écoute gigantesque, ça a sans doute pesé sur le résultat.
C'était préparé, évidemment, la phrase de Valéry Giscard d'Estaing.
Bah écoutez, il vous dira que non. Et moi, je penserais que oui.
Cette petite phrase, on s'en souvient, elle est restée dans l'histoire. Mais vous avez eu la chance, Alain Duhamel, d'être dans les coulisses, de voir ces candidats avant et après le débat. Quel souvenir vous gardez ?
Ben d'abord, avant, ils ne se parlaient pas. C'était très raide, c'était très neuf. Et à la fois, ils avaient le sentiment qu'ils jouaient très gros, l'un comme l'autre. Contrairement aux autres débats présidentiels, là, aucun des deux n'était favori. Donc, ils se regardaient vraiment en chien de faïence. Et puis, ça a été assez glacial tout le temps entre eux, avant, pendant et après.
Après, il n'y a pas d'échange entre non. les deux candidats ?
Non, contrairement à 95, où après, au contraire, entre Jacques Chirac et Lionel Jospin, au fond, chacun avait le sentiment d'avoir fait ce qu'il voulait. C'est-à-dire que Jacques Chirac n'avait pas commis d'erreur, alors qu'il était le favori pour le second tour. Donc, pas d'erreur, ça voulait dire qu'en réalité, il avait gagné. Mmh. Et Lionel Jospin avait été bon et détendu. Et donc, il se disait qu'il avait fait son job. Du coup, ils sont sortis, j'allais dire, main dans la main. Il ne faut pas exagérer, mais ils sont sortis ensemble, en bavardant et en se disant des choses plutôt cordiales.
Ce qui peut sembler surprenant après un débat d'entre-deux tours de présidentiel. Un débat politique, c'est un spectacle. Et la télévision l'a vite compris avec une émission phare au début des années 70 à Armes égales. On va écouter le générique.
Le générique est presque terminé. L'émission va pouvoir commencer à tout de suite dans la curiosité.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Mais monsieur Mitterrand, vous n'avez pas le droit de dire des choses pareilles.
Pas des problèmes, je vous en
nous
prie.
Nous représentons, je vous interromps.
Je vous en prie.
Jusqu'à 22h.
En tant que Premier ministre, j'ai constaté que vous aviez de très réelles qualités.
Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre. Et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats.
Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
La curiosité est un vilain défaut.
Il vaut mieux 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Jacques Chirac. Hein, ça serait bien long.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Juste avant le duel de demain, ces grands débats de la 5e République, on les revit dans la curiosité avec Alain Duhamel. Alain, on va notamment parler d'une émission politique que vous avez créée avant même le premier débat dont on a parlé tout à l'heure. Débat d'entre-deux-tours de la présidentielle 74. Vous créez cette émission à armes égales. Le principe, c'est quoi ?
Ben, c'était un duel précédé d'un film d'un quart d'heure que chacun des deux invités avait le droit de faire réaliser. On lui donnait les moyens et certains ont été très marquants, d'autres moins. Mais enfin, c'était un espace de liberté et c'était une époque où l'habitude de confrontation majorité-opposition à la télévision était, disons, originale.
Pour ne pas dire rarissime, et donc vous avez quand même bousculé les habitudes. Elle était mise en scène comme un spectacle. On a entendu le générique, déjà rien que le générique.
Ah, c'était de l'opéra. C'était de l'opéra. Il y avait tous les ingrédients possibles. Il y avait le décor, il y avait le public, il y avait le studio qui était immense, il y avait la solennité. Et il y avait le fait que pour les hommes politiques qui y étaient invités, à l'époque on ne parlait pas des femmes politiques, les hommes politiques, pour eux, c'était à la fois une première et une consécration incroyable. On était en permanence harcelés de demandes.
Vous avez animé, Alain Duhamel, la plupart des débats de cette émission politique. Par exemple,
oui,
un duel.
Tous, même.
Oui, tous d'ailleurs. Chirac Marché. C'était le 20 septembre 1971. C'était une première pour les deux hommes, Chirac Marché.
C'était la première fois et que Jacques Chirac et que Georges Marché participaient à une émission à la télévision. Donc, c'était deux débutants. Et il faut dire les choses comme elles sont. Georges Marché a été bien meilleur. Il a été incroyable. Avec instantanément un culot, une verve, une mauvaise foi abyssale. Mais on riait. Et même nous, on riait quand il parlait. Il s'est imposé comme un acteur politique, comme un acteur au sein de la politique. Jacques Chirac, au début, il était assez coincé. Il s'était beaucoup préparé. De toute façon, il n'a jamais adoré la télévision, alors que pour Georges Marché, la télévision, c'était devenu le lieu privilégié de la lutte des classes.
Alors, on a retrouvé un extrait de ce débat Chirac-Marché. Écoutez.
Une augmentation du niveau de vie, je ne vois vraiment pas à quoi vous pouvez faire allusion quand vous souhaitez défendre les intérêts sur ce plan des travailleurs.
J'aimerais que vous m'expliquiez alors pourquoi les travailleurs expriment un si grand mécontentement, ce mécontentement réel qui existe à travers tout le pays et qui s'exprime chaque jour par les luttes. Il est dû à quoi alors ? Un homme orchestre ?
Il est dû.
Vous croyez que c'est pas, vous croyez que ces gens sont.
Mais il est dû également.
Mais il est dû également.
On vous présente comme un jeune loup.
Mais il est dû également.
Vraiment du retard, monsieur Chirac.
Entendre ça de entendre ça de la bouche d'un léniniste, je trouve que ça ne manque pas de sens.
Comme il y a 40 ans, l'homme au couteau entre les dents.
L'homme au couteau entre les dents. Il parle comme nous, en fait, Georges Marchais. C'est ça qui marche.
Oui, il est même plutôt plus drôle.
Ah oui, ça, c'est pas difficile.
C'est vrai.
C'est vrai qu'il avait un côté.
Il avait, il avait de la verve.
Il avait une gouaille, quoi. C'est, oui, c'était oui, ça. Oui. Et Chirac, un peu comme Mitterrand au début, n'aimait pas la télé.
Non, mais Mitterrand au début était très mauvais. Hein. Ouais. Mitterrand n'est devenu réellement bon à la télévision qu'après avoir été élu président. Et Jacques Chirac, lui, n'était vraiment bon en réalité que justement dans les duels. Dans les duels et dans les campagnes électorales parce que c'est un guerrier. Alors là, il se dépassait un peu lui-même.
Ça veut dire qu'à l'époque, il n'avait pas ses candidats des coachs en communication ? On ne leur apprenait pas à parler à la télé, à s'exprimer ?
C'était des amateurs par rapport aux professionnels d'aujourd'hui, mais c'est peut-être pour ça qu'ils étaient plutôt meilleurs.
Alors, lors de ces débats télévisés, il y a parfois des vainqueurs surprises. Vous avez évoqué le duel entre Jacques Chirac et Laurent Fabius. Il y en a d'autres, des exemples. On va les découvrir dans un instant.
Si votre défaut, c'est la curiosité, alors vous êtes bien sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Ici Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Ce soir, avec Alain Duhamel, on revit les grands débats politiques télévisés qui ont marqué notre mémoire collective, comme ce 27 octobre 1985, où Jacques Chirac fait face à Laurent Fabius, alors Premier ministre.
Ce n'est certainement pas vous, monsieur Fabius, qui allez me déstabiliser, vous l'imaginez bien.
Ne vous énervez pas.
J'ai,
vous énervez
de ce point de vue, au moins autant d'expérience que vous, et par conséquent, vous ne risquez rien.
Alors, vous avez plus d'expérience politique que moi.
Soyez gentil de me laisser parler et de cesser d'intervenir incessamment, un peu comme le roquet, n'est-ce pas ?
Écoutez, je n'ai pas parlé au Premier ministre de la France.
Non, je parle à monsieur Fabius, représentant du Parti Socialiste.
Mais non,
cessez d'être.
Qu'est-ce
que c'est que ce comportement ? Écoutez, monsieur Fabius, cessez de m'interrompre indéfiniment, vous saurez comme ça quelles sont mes questions.
À l'époque, Alain Duhamel, Jacques Chirac, c'est le chef de l'opposition. On est dans quel contexte politique, là ?
C'est un contexte extrêmement tendu, puisque tout le monde sait déjà que la gauche qui a créer la première grande alternance en 81, va perdre les élections législatives. Laurent Fabius s'y prend plutôt bien dans sa politique économique, mais enfin, c'est perdu, il le sait. Jacques Chirac sera le prochain Premier ministre, ça sera la deuxième fois qu'il sera Premier ministre, sera le prochain Premier ministre, il le sait aussi. Et Laurent Fabius, qui pourtant passait pour très doué à la télévision, et qui s'y contrôlait très bien, et ben ce jour-là, il a eu de mauvais réflexes et il a prononcé des phrases qui n'étaient pas des drames en elles-mêmes, mais qui l'ont ridiculisé.
Par exemple ?
Quand il lui dit « Vous parlez au Premier ministre de la France », alors que l'autre a déjà été Premier ministre aussi, puis est de loin son aîné, etc. Tout le monde s'est mis à rire. Et ensuite, on l'a imité sur ce ton-là, alors que par ailleurs, c'était un Premier ministre de bon niveau.
Est-ce que c'est plus difficile, Alain Duhamel, d'organiser des débats aujourd'hui ?
Alors, il y a quand même aujourd'hui deux obstacles. Le premier, c'est la multiplication des émissions politiques. Avant, il y en avait une, puis ensuite, il y en a eu deux. Aujourd'hui, il y en a 40 à peu près. Bon, donc ça complique, évidemment. Et puis d'autre part, alors, il ne faut pas jouer les vieux messieurs qui disent de mon temps, mais il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y avait vraiment des animaux politiques incroyables. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont intelligents, évidemment, mais on n'a pas du tout l'impression d'avoir affaire à des monstres sacrés.
C'est-à-dire qu'on pourrait organiser peu de débats d'une qualité équivalente à ce qu'on pouvait organiser il y a 20 ou 30 ans.
Je pense que ça serait très difficile.
Oui.
Je suis d'ailleurs frappé de ce des vrais duels, il n'y en a plus. Alors que moi j'aurais trouvé par exemple tout à fait légitime, enfin même nécessaire, qui est par exemple un débat une fois par an entre le Premier ministre et le leader de l'opposition. Dans les autres pays ça se produit classiquement, nous on le fait pas.
Comment vous l'expliquez cette pénurie d'animaux politiques ?
Parce que la politique étant devenue ce qu'elle est, c'est-à-dire quand même un bon moyen de se transformer en Saint-Sébastien si on exerce un rôle public, ceux qui sont les meilleurs et qui avant se précipitaient vers les affaires publiques en espérant finir à la tête du gouvernement, aujourd'hui sont dans des banques privées ou des entreprises privées où ils sont beaucoup mieux payés, où ils travaillent autant et où c'est eux qui commandent et ça n'est pas eux qui sont en permanence critiqués.
Alain Duhamel, la détestation dont souffrent les politiques aujourd'hui, est-ce qu'elle fait partie des pathologies politiques françaises que vous décrivez dans votre livre ?
Bien sûr. C'est d'abord, c'est un très mauvais signe pour la démocratie, un très mauvais indice. Bon, ensuite, en France, ça a atteint des proportions. Dans tous les pays démocratiques, en ce moment, il y a la mise en cause des politiques, tout simplement parce que la crise dure sous des formes diverses depuis 40 ans. Mmh. Et donc, les gens, évidemment, en ont subi les conséquences et en veulent aux politiques. Mais en France, le mépris vis-à-vis de la classe politique, outre qu'il n'est pas très démocratique, et d'ailleurs ça explique peut-être aussi pourquoi il y a une progression des extrémistes, mais ce mépris atteint des proportions absolument invraisemblables. Il y a 90% des Français qui pensent qu'on n'arrive pas à être un homme politique de premier plan sans être financièrement malhonnête. C'est totalement faux, dans la réalité, totalement faux, mais les gens en sont persuadés. Et si on n'a pas de considération pour ceux qui gouvernent ou ceux qui aspirent à gouverner, c'est qu'une démocratie est vraiment malade.
Il y a une autre pathologie qui est la violence en politique. Alors on en a eu un exemple très récent aux États-Unis avec le débat entre Hillary Clinton et Donald Trump. Est-ce qu'on peut imaginer une telle violence entre deux candidats à la présidentielle aujourd'hui en France ?
Le débat Clinton-Trump, je l'ai regardé le lendemain matin. Oui. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi exécrable à la télévision en 50 ans. J'ai jamais vu ça. Je ne crois pas qu'en France, on pourrait en arriver là. Bon, d'abord parce que le vrai duel n'existe en France que pendant l'entre-deux-tours. Bon, aux États-Unis, il y a trois duels, mm-hmm. et puis qui sont précédés de dizaines d'émissions de télévision. Bon, ici, en plus, je ne dirais pas que la politique est plus sacralisée qu'aux États-Unis, mais elle le reste quand même un peu. Vous savez qu'aux États-Unis, de toute façon, la tradition, c'est qu'ils détestent la capitale fédérale, ils n'aiment pas le Congrès, ils respectent le drapeau, mais pas ceux qu'ils tiennent.
Alors en France, le débat le plus violent de l'histoire, c'est celui qui avait opposé Bernard Tapie à Jean-Marie Le Pen. On était en 1989.
Vous êtes un grotesque.
Ensuite, monsieur.
Vous pitre, monsieur.
Vous avez dit, attendez.
Attention. Écoutez, vous êtes un pitre.
Il y a une limite.
Vous dépassez la limite. Mais ne dites pas d'énormité comme ça. Et ne me menacez pas physiquement, monsieur Tapie. Il vous en cuirait.
Parce que vous avez votre garde du corps, là.
Non, moi.
Vous rigolez. Enfin, regardez-vous.
Le lendemain, il y a une grande partie de la presse qui titrait « Le Pen humilié par Tapie ». C'était aussi votre sentiment, Alain Duhamel ?
En tout cas, Le Pen était la grande star politique à la télévision. Parce qu'il avait du talent et parce qu'aussi, il était capable de toutes les transgressions. Donc ça créait à chaque fois un choc et un mystère. Pour la première fois, il a eu quelqu'un, Tapie, qui avait autant d'audace que lui, qui était aussi combatif que lui, qui était aussi transgressif que lui, qui ne respectait pas plus les règles que lui et qui n'avait pas peur. Et donc, ça a été une surprise, mais c'est vrai que c'est Tapie qui l'a emporté.
Merci beaucoup Alain Duhamel, on vous retrouve évidemment demain sur l'antenne d'RTL avant le grand débat de cette présidentielle. Et je rappelle le titre de votre dernier livre, Les pathologies politiques françaises, c'est paru chez Plon.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. La curiosité est un vilain défaut. RTL.
À suivre dans la curiosité sur RTL, un académicien qui se pique de moustiques, Éric Orsenna.